Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans l'émission Radio Foot International sur RFI, la radio mondiale. Nous évoquerons un bilan de ces journées d'éliminatoires pour Qatar 2022. Les grandes équipes étaient au rendez-vous. Italie, Allemagne, Espagne ou encore Pays-Bas ont facilement pris la tête de leur groupe. D'autres ont surpris, comme le Danemark sur sa lancée de l'Euro ou encore la Norvège du géant et performant Haaland. Les sanctions contre l'OGC Nice et l'OM sont tombées. Au-delà des détails, des punitions savamment réparties, seront-elles suffisamment fortes pour servir d'exemple, servir de leçon, pour décourager des récidives? Nous sommes un peu du dubitatif et nous vous donnerons les détails. Un invité dans cette émission, un invité exceptionnel, un passionné de foot, mais qui l'observe sous le prisme de l'argent. Bonjour Pierre Rondeau.
Bonjour, invité exceptionnel. Je commence avec une petite pression déjà.
Vous aimez bien ce titre? Non mais on dit ça quand on invite la personne la première fois.
Oui, après, à chaque fois, tout le monde a le droit à un invité exceptionnel.
Non, vous inquiétez pas, vous êtes exceptionnellement aujourd'hui dans notre studio. Vous faites des diagnostics sévères sur cette planète qui ne semble désormais plus tourner bien rond. Vous le faites pour la Fondation Jean Jaurès. Alors après votre ouvrage « Le foot va-t-il exploser ?» Eh bien, voici fin de partie pour le foot, avec des points d'interrogation, bien sûr. Et c'est des questions que nous vous poserons. Vous nous expliquerez ce qui, selon vous, pourrait sauver le football de cette spirale inquiétante où l'a entraîné le business sans limite. Hein, je ne me trompe pas?
C'est ça.
Voilà. C'est ça. Je crois que c'est des analyses déjà qu'on partage ici à Radio Foot International. Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous aussi, vous partagez ça?
Bah oui, puis même Pierre a publié Pierre chez Solar aussi.
Je sais donc, bien.
On a du foot.
On a des liens. On a des liens. Et puis il connaît aussi Chérif Guémour. Bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Dans SoFoot, vous avez
et
déjà dit.
On a aussi des liens, hein, puisque j'écris aussi pour SoFoot. Donc voilà, on est entre amis.
On est entre amis, donc pas d'exceptionnels qui viennent. Pierre Guérin et David Finzel m'ont aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
All'altezza del primo palo, ma non colpisce il pallone. C'è sempre però l'Italia che attacca con Kean in area, al volo! Moise Kean, e sono quattro. Due per Raspadori, due per Moise Kean, due doppiette. Siamo al 29esimo, inizia la mezz'ora. Siamo 4-0 per l'Italia. È una bella serata.
Et de 37 pour l'Italie, le record d'invincibilité s'est accru hier soir pour l'équipe de Roberto Mancini. Une 37e rencontre sans défaite et même une large victoire pour ces champions d'Europe qui se sont amusés en étriant, peut-on dire, la petite équipe de Lituanie. 5-0 avec un groupe rénové pour faire oublier les deux matchs nuls contre deux équipes quand même plus fortes, la Suisse et la Bulgarie. Alors les choses sont-elles rentrées dans l'ordre pour les champions d'Europe
On a vu à quel point la Suisse était très fort.
Nous, on le sait.
Grosse équipe.
Mais maintenant, on partage cela avec les Italiens.
Non, ce qu'on voit quand même à l'issue de ces trois journées d'éliminatoires, c'est qu'effectivement, l'espèce de hiérarchie sur le papier, hein, des équipes qui sont un petit peu plus fortes, quand on joue trois matchs de suite, ben finalement, le troisième, à une ou deux exceptions près, en fait, les gros qui étaient attendus se sont mieux sortis de ce troisième match que les équipes qui avaient plus cravaché sur les premiers matchs. Quand on enchaîne, les hiérarchies se rétablissent un peu.
Jean-Philippe Bouchard serait-il partisan du mondial tous les deux ans et des fenêtres de matchs internationaux?
Franchement, je préfère des phases finales de Coupe du Monde que des éliminatoires aussi déséquilibrées.
Mais regroupées sur un mois entier.
Franchement, quand on regarde tous les groupes, il y en a un, je crois, un seul groupe où il n'y a pas une équipe ne s'est pas détachée très très largement. Oui. Franchement, tout ça pour ça, est-ce que c'est vraiment Ouais, utile c'est-à-dire pour le football, est-ce gros, que c'est intéressant logique. Pour voilà. La Lituanie de s'en prendre 5 face à l'Italie, je suis pas sûr.
Ouais. L'Italie dans le groupe C, mais avec deux matchs en plus quand même, elle avait un peu frissonné. Matteo Cioffi nous dit oh là là le spectre des barrages hein, qui les a évidemment tellement choqués avant 2018. Est-ce que là les Italiens bon sans se renier se sont remis dans le droit chemin en faisant Mancini il a pas été en plus économe.
Bah, ce qu'on peut déjà on va rappeler qu'ils ont fait deux matchs nuls. Donc quand on tape sur l'équipe de France qui arrive pas à battre soi-disant les petites équipes, l'Italie a fait 1-1 contre la Bulgarie, 0-0 en Suisse, même si la Suisse ok c'est un peu costaud,
énorme.
Le troisième match qu'ils font contre la Lituanie, c'était une équipe B. Ils gagnent 5-0.
L'équipe B, la Lituanie ou l'Italie?
Ah non, l'équipe B d'Italie. Il y a des équipes A prime, là c'est vraiment l'équipe B. Hein.
Non,
c'est,
on entendait le doublé de Moïse Kean, effectivement.
Voilà. Ouais, à deux ou trois joueurs près, ça, pratiquement tout a été changé. On peut changer pratiquement les trois quarts de l'équipe. Elle reste performante avec son identité de jeu. Donc ça, c'est vachement impressionnant. Et pour ajouter, il me semble que les adversaires directs font pas des résultats. Là, je crois que la Suisse fait match nul à l'extérieur. Mm-hmm. Donc un peu comme l'équipe de France, même quand ils sont pas bons, quand ils ont des faiblesses, ben les autres voilà.
Les dégâts.
Donc a priori, il y a rien à craindre, c'est bien parti.
Pierre, cette équipe sacrée championne d'Europe, malgré tout, on a plaisir, même si elle s'est cassée les dents un peu sur la grande Suisse, n'est-ce pas Jean-Philippe?
C'est un beau match, hein. C'était,
voilà,
c'était
on a plaisir à la voir toujours parce que elle a montré quelque chose de beau durand l'Euro.
Ah oui, bien sûr, c'est sûr. Bon, elle est quand même championne d'Europe, hein, faut-il le rappeler. Donc,
oui,
elle est championne
mais avec
d'Europe,
un style qui était plus italien.
Avec un style plus italien, oui, on s'en est d'accord. D'accord, mais elle reste championne d'Europe. Après, moi, me concernant, je n'ai vu que la première mi-temps, donc j'aurais pas l'outrecuidance de vous parler de tout le match et de la seconde mi-temps dans la mesure où je n'ai pas pu la voir. Mais oui. 5-0 contre la Lituanie, donc équipe B très bien, malgré tout, elle reste performante. C'est sûr
c'est
que
c'est un état d'esprit aussi.
C'est un état d'esprit,
doute, hein.
c'est Mancini qui apporte. Alors j'ai ouï dire qu'ensuite il s'était énervé sur l'autoroute italienne.
Ouais, mais c'est pendant le match déjà, il a pas attendu l'autoroute.
Voilà, mais énervé. Il apporte justement un état d'esprit de force,
bien
de vigueur, de rigueur. Et...
Ouais, on en avait conclu d'ailleurs au moment de leur titre que finalement la vraie star de l'équipe, un peu comme à un moment on disait que c'était Deschamps, en tout cas jusqu'à 2018, bah là c'était Roberto Mancini.
Après j'ai le sentiment qu'il y a toujours eu une ferveur italienne du côté des sélectionneurs, parce que Conte c'était pareil, cette rigueur, cette force sur le terrain qui apporte quelque chose, qui amène quelque chose. On est sur un état d'esprit italien très où l'entraîneur, le sélectionneur n'est pas apathique au bord du terrain, mais apporte quelque chose.
Il a surtout profité des deux années après l'échec
complètement
de qualification.
Il a travaillé.
Qui lui a permis de remettre tout à plat, de s'imposer. Et forcément, quand on arrive, quand on a finalement ce laps de temps pour réinstaller une identité de jeu et que ça marche, forcément, là, son aura aujourd'hui
est
énorme.
On décroche un titre qu'on ne gagnait pas depuis longtemps. C'était important. Impressionnante aussi la Mannschaft, dont je vous donne des nouvelles parce que tout le monde va très bien. Cette équipe dans son avion, son Airbus, eh bien, a apparemment eu des problèmes de générateur électrique à bord et a dû se poser en urgence du côté d'Édimbourg. Et on a dit aux joueurs à 5h du matin, débrouillez-vous pour rentrer chez vous. Bon, ils ont dû trouver d'autres vols. L'équipe vivait surtout sa première période internationale de l'ère post-Joachim Löw, puisqu'il est parti après l'Euro. Et apparemment, eh bien, le courant passe plutôt bien entre Hansi Flick et ses joueurs.
Schiebt den Ball mal vorne rein. Verarbeitet Sané mit dem Pass zum zweiten Pfosten und die frühe Führung. Und der Treffer erzielt und damit haben wir also dann doch die frühe Führung für Deutschland.
Cette équipe d'Allemagne, c'est 3 matchs, 3 victoires, 12 buts marqués, 0 encaissés, donc sur cette fenêtre. Bon alors, citons quand même les adversaires. C'est pas la Suisse, mais c'est Liechtenstein, 2-0, Arménie, 6-0, Islande, 4-0. Cette Islande, bon, on en a déjà parlé, elle pique un peu du nez après la belle embellie de 2016. Est-ce que avec pratiquement le même effectif, on peut dire que Joachim Löw, il y a un vent nouveau qui souffle sur la Mannschaft, Sheriff Gamour.
Il y a surtout une plus grande
adhésion.
Non, ça déjà, parce que les joueurs de l'équipe d'Allemagne, ils en avaient marre. Enfin, c'est pas qu'ils en avaient marre, c'est qu'il y avait une lassitude
des
deux côtés. Et il y a surtout une homogénéisation, c'est-à-dire que maintenant, dans l'équipe d'Allemagne, tout le monde joue à son poste. Il y a un système 4-2-3-1. Les deux du milieu, c'est Kimmich et Goretzka, comme au Bayern. Chacun est à sa place. Gnabry et Sané sur les côtés. Werner en 9, pas très bon, il est encore vendangé. Et Gundogan en 10. Chacun est à sa place. C'est une équipe structurée, c'est une équipe vertébrée. Elle se procure toujours autant d'occasions, elle vendange pas mal. Ils sont sur le chemin, je pense que l'Allemagne va revenir beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
Je vais quand même citer Manuel Neuer, parce que si j'ai cité les adversaires qu'il y a eu là, c'est lui-même dit, le capitaine donc de cette Mannschaft, qu'il était difficile de dire où ils en sont, car ils ont battu des équipes qui ne sont généralement pas en phase finale de Coupe du Monde, mais c'était quand même Dutch Qualität.
Non mais après aussi on peut
Qualität, ce match, Qualität.
Précis avec l'accent.
Très précisément, j'ai imité la pub, mais je parle pas franchement.
On peut aussi au-delà du match et des rencontres à proprement parler, on peut aussi se poser la question de l'intérêt de ces rencontres face à des petits adversaires. On dira aussi que ces rencontres-là permettent à ce que ces adversaires grandissent et s'améliorent, prennent de l'expérience. Mais c'est vrai qu'enchaîner trois matchs contre l'Arménie, le Liechtenstein et l'Islande, ça va pas être un révélateur de votre véritable niveau.
Mais Pierre, peut-être que dans ces calendriers, on y viendra tout à l'heure, mais ces calendriers fous qu'ont maintenant les footballeurs et les équipes, les clubs et les équipes nationales, finalement, c'est une manière de faire une vraie répétition.
On pourrait avoir un système.
Alors avant après, une compétition.
La vraie raison, c'est le nombre de participants à la Coupe du Monde qui a augmenté.
Bien
avant,
sûr.
L'Europe était sous.
Pas encore,
en 2022. Pas encore, en 2022.
Oui, non, mais ça a déjà augmenté, là, quand même. Oui. Et par rapport. Non, mais je.
Oui, par rapport projet, à l'année 70.
Voilà, c'est ça. Il y avait forcément des gros qui tombaient dans les éliminatoires européennes, forcément, puisqu'il y avait peu de groupes.
Oui. Maintenant, on est 32.
Voilà. Donc, et l'Europe commence à avoir sa place. Donc, on a des groupes très déséquilibrés où il y a une
quand il y a Saint-Marin qui joue
Gibraltar.
C'est une tête de liste qui va s'imposer quoi qu'il arrive.
Tout est fait pour ça.
C'est pas le cas de tous les groupes, hein. Les groupes sont plus équilibrés.
Ouais.
Là où il y a la Suède, là voilà. Où il y a la Grèce.
Il y a des barragistes après, de toute façon.
Mais sur, très peu. Au départ, au tirage, Pays-Bas, Norvège, Turquie, c'est relevé. Hein. Bon, tous les groupes ne sont pas comme ça, c'est vrai. Mais,
non, ils sont même assez
en
peu
gros,
comme ça.
Les grandes nations du foot ne sont pas en danger en Europe.
Ouais, elles font des démonstrations, allez, on va dire, mais elles se font peur des fois quand même. En tout cas, est-ce qu'il y a eu un déclic psychologique, le fait de changer Joachim Löw avec ses 15 ans et son titre de champion du monde pour Hans Flick qui, le Bayern, a quand même aligné beaucoup de titres.
Les joueurs ne supportaient plus Joachim Löw. Alors, ce n'est pas de la haine non plus, parce que bon, en fait...
Les jeunes ou tous?
Non, l'ensemble du groupe.
Même les champion du monde.
Oui, d'ailleurs, dans les nouvelles compos, on voit pas Toni Kroos. On a rationalisé.
Il faut pas oublier que Flick, il vient du Bayern. Ouais. Il y a toujours une ossature forte du Bayern en équipe nationale, qui connaît parfaitement ses joueurs, qui sait que c'est un meneur d'homme. Enfin, il est très très psychologue. Löw l'était aussi, mais peut-être plus en prenant une approche du football, de la vie communautaire. Flick, il prend les joueurs individuellement, comme ils sont, et il les gère individuellement. Et ça, il l'avait très très bien fait au Bayern, en réveillant un effectif qui était un peu en perdition, et alors le menant immédiatement au titre de champion d'Allemagne. Et là, il s'appuie aussi sur les joueurs qu'il connaît très bien, et je pense qu'il travaille bien son groupe, là, aujourd'hui. Et c'est ça. Après, les scores que l'Allemagne fait contre des équipes aussi faibles,
c'est pour ça que je le citais, qu'Emmanuel Neuer, parce qu'il avait quand même l'honnêteté de le dire.
Non, mais après, heureusement même que l'entraîneur, le sélectionneur, le coach sert. Et on voit bien qu'avec un même groupe, un même effectif, vous changez d'entraîneur, vous avez des résultats différents. Parce que au-delà de la feuille de match, au-delà de qui y a sur le terrain, il y a aussi le rôle de l'entraîneur. Et là, pour une fois, on peut dire que l'entraîneur, j'ai en tête, il y a une phrase qui est connue en économie, qui est citée dans un très bon livre, Soccernomics, donc traduit en français, c'est les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus, qui a une thèse comme quoi on pourrait remplacer un entraîneur par un ours en peluche, ça fonctionnerait. Bah clairement, là non, vous changez d'entraîneur avec le même groupe, et bah vous avez des résultats, certes face au Liechtenstein et à l'Arménie, mais heureusement, le sélectionneur va apporter une âme à l'équipe, va apporter une cohésion, un esprit de groupe, au-delà du jeu en lui-même. qui va permettre d'apporter des résultats.
Mmh. On rappelle quand même qu'avec Joachim Löw, ils perdent contre la Macédoine du Nord à domicile.
Oui, oui.
Là, ça arrivera pas. Non,
oui,
non, là, pour l'instant, ils sont en train de rationaliser.
Et de rattraper un peu.
Voilà, c'est ça. Puis après, les gros rendez-vous, ils finiront par arriver. Mais là, pour l'instant, c'est cohérent.
On s'inquiète pas trop.
Et il appuie aussi sur la forme du moment. C'est pour ça que notre ami Kerrer du PSG, il est titulaire depuis 3 matchs. Parce qu'il est en forme et il le sélectionne. Mmh. Ça, c'est un geste positif pour tous les possibles sélectionnables d'équipe d'Allemagne.
Un meneur en lévitation, peut-on dire, un joueur qui emmène son équipe dans son sillage, serait-ce depuis qu'il est devenu Blaugrana.
Ah, in de eerste helft natuurlijk veel ruimte weggaven. Bergwijn. Voorzet is goed van Bergwijn. En daar is de hat-trick. Zijn eerste in het Nederlands elftal. Memphis Depay, 4-0.
Il a toujours été au rendez-vous de sa sélection, c'est ce qu'on peut dire en tout cas de Memphis Depay, qui a contribué donc à reprendre avec son équipe la tête de ce groupe G, les Pays-Bas qui ont terrassé, alors là c'était ni Liechtenstein, ni Arménie, ni San Marin, c'était la Turquie 6-1 dans un groupe difficile, on en parlera après avec la Norvège notamment, en tout cas Louis van Gaal, en tout cas moi je le dis comme ça.
Alors là c'est shérif, c'est les Pays-Bas.
Non, oui, je sais bien.
Non, c'est la française.
Qui a repris donc la sélection orange ces derniers temps, était lui très content.
Nous avons fait un pressing fantastique contre les Turcs et ce jusqu'à la toute fin de la rencontre. Les remplaçants ont également suivi mes instructions et ont été performants. Mais surtout, les buts me font plaisir parce que certains sont incroyables, en particulier le premier. Il y a encore quelques points à travailler, mais j'ai une équipe impressionnante. Elle veut s'améliorer, elle prend ses responsabilités, elle est heureuse, elle intègre bien les nouveaux. Vraiment, c'est une équipe fantastique.
Alors, Memphis Depay, un peu à l'image de Griezmann, qui, lors de son match, lui, en marquant des buts, avait rejoint la légende Platini, et bien lui, il a rejoint Johan Cruyff, hein, 33 buts en sélection pour l'instant. En tout cas, on a l'impression que depuis qu'il est Blaugrana, depuis qu'il est parti au Barça, ça lui a donné des ailes.
Ouais, mais les ailes, on en avait déjà parlé. Mais quand il revient dans la sélection des Pays-Bas, il a été capitaine aussi en l'absence de. Enfin après, c'est un brassard tournant. Mais non, il s'est toujours donné à fond. Il encourage tout le monde, les jeunes. Il joint le geste à la parole en marquant souvent en plus. Il marque assez souvent. C'est vraiment évidemment Van Gaal s'appuie dessus sur Wijnaldum et Van Dijk. C'est trois tauliers. Mmh. Et il a montré l'exemple, les deux premiers buts, les 1-2 avec Klaassen, c'est deux buts absolument sublimes. Et voilà, il y a Van Gaal qui redoutait un peu parce qu'il arrivait avec cette sélection qu'il connaissait pas bien. Les Pays-Bas, il s'était pas très, très bien engagé. 3 matchs, il a dit, j'ai que 48 heures pour préparer mon équipe. On a 3 matchs, dont deux rendez-vous importants. Donc en Norvège, ils ont fait 1-1 et contre la Turquie. Finalement, ils font 3 matchs, ils marquent 11 buts. Et ils ont repris la première place ex-aequo avec la Norvège.
Et il faut pas oublier qu'ils avaient perdu le match aller quand même contre la Turquie.
4-2,
C'est pas anodin,
C'est la vengeance, c'est pure et simple. Hein. C'est de la vengeance pure et simple. Il y a un tour d'honneur après. À la fin du match, ils ont fait un tour d'honneur. C'est dire qu'ils en avaient.
Les Pays-Bas, c'est l'équipe, en plus, on se souvient d'eux aux Coupes du Monde. Et à chaque fois, finalement, une équipe qui échoue tout près du podium ou tout près de la marche. Et on a envie de les voir enfin.
En plus, les Pays-Bas, moi, c'est un pays qui m'a toujours impressionné. On parle de la Coupe du Monde, l'Euro, les performances de la sélection. Le pays en lui-même est un pays qui vit, qui respire sport. On n'a qu'à voir même... les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. C'est un pays qui fait quoi? Qui fait 12 millions d'habitants?
Un peu plus.
Ou 13, 14, moins de 20. Ouais. Mais ils sont devant la France, par exemple, au tableau des médailles olympiques et paralympiques, footballistiquement et sportivement.
Ils ont un réservoir.
Mais c'est extraordinaire. Ouais. Ça serait très intéressant de connaître leurs secrets. Parce que voilà, on parle de ces joueurs, on parle de la sélection. C'est un pays qui transpire, qui sue sport.
Et qui fait passer finalement.
Y compris aux Jeux d'hiver.
Cette passion.
Et même aux Jeux d'hiver, alors que c'est pays plat.
Alors, patinage, ils raflent tout. C'est leur truc.
C'est les Pays-Bas et au sport d'hiver.
Ils patinent sur les canaux. Ouais, c'est l'avantage.
Sur les canaux gelés. Ça va s'arrêter, ça.
Ouais,
avec le réchauffement. Avec le réchauffement climatique. Dans ce groupe difficile, shérif, la Norvège, à égalité de points pour l'instant avec les Néerlandais. 13 points sur 18 à prendre. Et en plus, alors, il y aura toujours ces places de meilleur deuxième à prendre et la Norvège. Peut-être qu'on va voir Haaland à la Coupe du Monde.
Ah ouais, non, il la boycotte.
Ah mais oui, c'est vrai, bien sûr.
Il a boycotté. Enfin,
bon, ils n'ont pas encore boycotté puisqu'ils font les éliminatoires.
Oui. Tu m'enlèves de la bouche. Donc ouais, bon, quand on boycotte à fond, c'est-à-dire on boycotte pas la compétition. On commence déjà par boycotter les éliminatoires, mais
ils les disputent pour l'instant.
Il
les
dispute.
Hein,
et il les dispute bien. Il les dispute à fond. Donc tôt ou tard, ils seront mis face à leurs contradictions. Mais
cette équipe de...
Ils sont en embuscade. Ben moi, je l'ai, comment dire, j'ai l'impression que ça va se régler maintenant entre les Pays-Bas et la Norvège. La Turquie, je pense que moralement, je pense qu'ils sont très atteints.
Oui. Mais on les a vus quand même atteints aussi pendant l'Euro, parce qu'on
attendait plus. Ouais, il va y avoir la nouvelle session, la dernière session des éliminatoires au mois d'octobre. Il va y avoir un Pays-Bas, Norvège, Amsterdam, et c'est là que tout va se régler.
Je serais très curieux d'imaginer la Norvège qualifiée au Mondial au Qatar.
Ah, on n'y va pas. Non, ouais, finalement, non.
On est qualifié, mais on laisse notre place. Bon, bah, du coup, ce sera les Pays-Bas qui seront deuxièmes. L'Espagne, Jean-Philippe, on a l'impression qu'elle s'est ressaisie aussi. Hein. Elle s'est bien relancée, alors elle aussi, avec des victoires un peu exotiques contre la Géorgie et contre le Kosovo. Mais en tout cas, c'est de quoi respirer, parce que derrière, alors là, en embuscade, il y a Grèce et Suède.
Oui,
Suède et Grèce.
C'est un groupe qui est peut-être parmi les plus disputés, avec celui de la Russie et Croatie, je crois. C'est
celui des Pays-Bas.
Le H. Donc, effectivement, oui, là, c'était important pour eux de remettre un peu les pendules à l'heure, on va dire. Mais on retombe un peu dans la configuration de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le troisième match, en fait, la hiérarchie des valeurs se réinstalle un peu. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que, on est dans un début de saison, que pour bien des équipes, il y a parfois des nouveaux sélectionneurs, des arrivants, c'est le cas en équipe de France, les joueurs doivent se trouver, commencer à trouver leurs automatismes, et ça se met en place forcément au bout de
trois matchs.
On a enfin le sélectionneur, n'est-ce pas, a le temps de voir ses hommes, de les entraîner et de les placer au meilleur endroit. Un petit mot aussi sur le Danemark, la belle surprise du dernier Euro.
Andreas Cornelius, die Verwender Handbacher, direkte, und so lägger han den over til Andreas Cornelius. Und det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, for han er jo derovre på bæreste stolpe. Vanvittig hovedstødstærk.
Le Danemark, lui aussi, on reste sur les pays du Nord, scandinaves, avec vous, shérif. Toujours dans sa dynamique, on avait vu que c'était magnifique pendant l'Euro. On aurait même aimé qu'ils aillent plus loin, un peu plus. 18 points sur 18 pour l'instant. Alors, il y a des équipes qui ont des matchs en retard. Donc, mais quand même, c'est les seuls à avoir mis 6 victoires sur 6. Pour l'instant, on a toutes les chances de les revoir aussi en Coupe du Monde.
Ouais, c'est ce qui m'avait mis la puce à l'oreille quand ils sont arrivés à l'Euro. J'avais regardé un peu leur poule éliminatoire, même si ils avaient du mal à finir les matchs et il y avait une constante. Et par contre, début des éliminatoires, ils étaient bien partis, ils avaient déjà 3 victoires. Là, c'est la nouvelle phase. C'est la même équipe, ouais, ils sont sur la dynamique. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est le 5-0 qu'ils mettent à Israël, parce qu'Israël avait battu l'Autriche. On s'est dit, quand même, quand c'est une grande équipe en Israël. Puis en fait, ils les ont laminés 5-0, mais comme ils laminent tout le monde, c'est une génération montante.
Oui.
Donc, va falloir compter sur eux.
On sait qu'ils sont capables de surprendre, Jean-Philippe, ces Danois. Tout le monde se souvient de 1992, j'imagine. Ouais. En tout cas, même ceux qui regardent les archives sur YouTube. Mais cette équipe qui débarquait un peu nulle part et qui avait remporté la compétition.
Sans être qualifié, ouais, faut-il le rappeler.
Là, c'est encore plus fort. C'était pas un boycott, mais bon, ils avaient été rappelés au bénéfice de l'écart d'autres.
La Yougoslavie.
Voilà, exactement. En tout cas, c'est vrai que cette équipe elle a un jeu et quelque chose qui est enthousiasmant.
Oui, alors ce qui est compliqué, c'est que l'Euro s'est passé à pas grand chose en fait. Les qualifications, et puis il y a eu l'affaire de
Eriksen,
forcément, qui était
qui a
marqué le groupe.
Beaucoup d'émotions dans tout ça. Enfin, on savait pas trop distinguer ce qui était l'âme de l'équipe et l'espèce d'ambiance très incroyable qu'il y avait autour. Maintenant, on voit qu'il y a du travail, qu'il y a des très bons joueurs. Ça, on les connaissait. C'est une équipe qui commence à être soudée. Et qu'on voit dans des
grands clubs européens,
qui commence à faire des résultats. Après, c'est toujours compliqué pour ce genre d'équipe d'aller au bout. Je ne suis pas sûr que le Danemark... Enfin, on en avait parlé là... Pendant l'Euro.
Ils ont de la réserve, hein.
Ils ont... Ouais, mais il y a quand même un petit... Enfin, c'est souvent pour les pays où il y a une moindre population, se font compliquer d'aller jusqu'au bout.
Ils ont déjà une identité de jeu. Ça, c'est très dur. Ça c'est acquis. Ils ont à peu près les 18-19 joueurs avec lesquels tu peux aller loin. Ils jouent tous dans les grands clubs. Ils doutent de rien. Et puis bon, après, évidemment, la mystique Eriksen qui a derrière, qui booste l'équipe,
ça tiendra plus à la Coupe du Monde.
Mais ils sont allés.
La Coupe du Monde, elle arrive vite. Hein. Ils sont bien dans la lancée. Elle arrive vite, la Coupe du Monde.
Signalons, et on y reviendra plus tard, mais le gros raté de l'Angleterre, hein, qui finalement a été rattrapé sur le fil. Alors évidemment, quand on a en face un Polonais qui s'appelle Lewandowski, eh bien voilà, du coup, on fait un match nul et ça n'arrange pas les affaires de l'Angleterre. Continuons.
C'est la mauvaise réaction pour Dimitri Payet. Il peut être exclu, Payet, avec cette attitude. Évidemment, c'est lui qui reçoit depuis tout à l'heure des projectiles.
Là, ça sent bien.
La commission de discipline de la Ligue s'est réunie pour statuer sur les graves incidents qui ont émaillé la rencontre. Elle a rendu sa décision.
Et oui, pour ce match sans fin, le match Nice-OM a commencé le 22 août dernier. Il s'est arrêté à la 75e minute et il n'est toujours pas terminé. Il sera même à rejouer. Ainsi, on a décidé la commission de discipline qui a donc enfin édicté ses sanctions puisqu'elle s'était donné le temps de la réflexion. C'était hier soir dans un hôtel parisien autour donc de ce derby de la Méditerranée qui s'était terminé eh bien en bagarre et polémique. Alors avant de voir les détails des sanctions, Excoutons l'esprit de la lettre qui a mené cette commission, notons-le, indépendante de la Ligue de football professionnel, mais qui avait le pouvoir de décision et de punir, et son président Sébastien Deneux.
Il nous est apparu que les circonstances très particulières liées aux incidents d'une part, et au fait que M. Bastien a, depuis le retour au vestiaire, eu le sentiment que le degré d'insécurité avait été tel qu'en réalité ce match ne pouvait être rejoué, en dépit de sa décision finale, mais compte tenu de ses atermoiements et de ses hésitations en tout cas, il nous est apparu plus cohérent de faire rejouer ce match. La volonté de la commission, c'est aussi d'envoyer et de rappeler en tout cas que le sort d'un match ne peut pas dépendre de la décision unilatérale d'un club qui refuse, pour des motifs qui lui appartiennent, certes, mais qui refusent de reprendre le match en dépit de la décision finale de l'arbitre.
En gros, les trois points qui auraient pu aller à Nice parce que l'OM n'est pas revenu sur le terrain ou qui auraient pu aller à l'OM parce que Nice n'a pas su organiser le match, et ben finalement, on a d'autres décisions et d'autres sanctions. Contre Nice, et bien match où il gagnait 1-0 au bout de la 75e minute, le match est donc à rejouer et sur terrain neutre. Trois matchs de suspension pour ce qui est du public et puis deux points perdus dont un avec sursis et on va en parler. Du côté de l'OM, bah Payet suspendu pour un match mais avec sursis alors que Alvaro lui est suspendu pour deux matchs fermes et l'adjoint, le fameux adjoint que personne ne connaît et qui a donc pris la plus grosse peine est suspendu jusqu'en juin 2022, Pablo Fernandez, pour avoir agressé un supporter de Nice. Écoutons juste le commentaire et la réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle était à Marseille ce matin et elle a réagi à cette décision que la commission de discipline auto-jugée sévère et même très sévère.
C'est vrai qu'on se demande tous finalement à qui la faute. Donc moi je suis heureuse qu'il y ait des sanctions aujourd'hui proportionnées à ce qui s'est passé, qu'on puisse rendre justice aussi aux victimes. Et les premières victimes, bah, c'était les joueurs et ça c'est inacceptable que ces violences aillent sur un terrain et aillent chercher des acteurs qui font le spectacle sportif. Je crois qu'il faut qu'on ait tous une réflexion sur comment enrichir peut-être aussi le panel de sanctions. En tout cas, je suis heureuse que cette commission se soit prononcée en toute indépendance.
Quel ressenti Jean-Philippe Bouchard pour vous ? Est-ce que, on peut peut-être se dire ça, chacun renvoyé dos à dos ?
C'est-à-dire qu'en fait, la Ligue a essayé de pas...
C'est pas la Ligue.
Enfin oui, la commission.
La commission
indépendante.
Indépendante, mais qui quand même dépend de la Ligue, puisque c'est elle qui file les dossiers.
Surtout, il y a un souci de ménager la chèvre, le chou...
Et le loup.
Le loup, la salade.
Et l'argent, gros, peut-être.
L'idée, c'est que tout le monde est un petit peu coupable, mais on ne veut pas taper trop fort non plus pour ne pas ajouter encore du conflit et de la confusion. À l'arrivée, il y a quelque chose qui est quasi illisible, où en gros on punit sans punir. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à de la demi-mesure quand même.
Ce qu'il fallait, c'est éviter aussi une jurisprudence. Il fallait éviter de si on avait été du côté de Nice ou de Marseille, on aurait cautionné les actes des uns ou des autres. Si on avait été en faveur de Nice en donnant match gagné à Nice ou match non pas à rejouer mais à terminer à les 15 dernières minutes et une sanction contre Payet, on aurait cautionné les agissements des supporters. Et inversement, si on avait été du côté de Marseille en donnant match gagné à Marseille parce que Marseille demandait, parce qu'il existe une jurisprudence lyonnaise contre Bastia, match arrêté, tapis vert en faveur de Lyon. Si on avait donné raison à Marseille, on aurait cautionné le geste de Payet en disant Payet envoie une bouteille sur les supporters. Alors effectivement, après un geste de la part des supporters,
il en a reçu 74.
Oui, non, mais ça, là-dessus, non, mais c'est évident. Il y a pas de, je suis pas en train de dire qui. Simplement, je pense que leur décision. ils l'ont prise en se disant qu'il faut éviter de prouver qu'on donne raison à l'un ou à l'autre. Il fallait que les deux soient renvoyés derrière leur derrière leurs actes et effectivement de dire. Alors moi je trouve que c'est de bonnes sanctions puisque elles sont à mon sens égales si je puis dire. Je répète parce que si on avait été plus sévère contre l'un ou l'autre, on aurait donné raison à l'un ou à l'autre.
Nice est peut-être un petit peu plus sanctionné quand même, Chérif, parce que Nice finalement quand même perd au moins un point. Va traîner toute la saison cette espèce de point en sursis.
Bah, c'est là. Et puis
pas de public et puis match à rejouer qu'ils étaient en train de gagner quand même.
Après, ça c'est la faute des supporters.
Je pense.
Non mais justement.
Oui voilà. Faut qu'il l'assume.
Je pense que le nœud du problème il est là, comme l'a très bien rappelé Pierre. Oui. De toute façon, on pouvait pas donner raison à l'un et à l'autre. Donc de toute façon, le match, à mon sens.
Mais ça donnait le sentiment qu'un peu tout le monde était coupable.
Non, mais j'y arrive. Je pense que le match devait être rejoué de toute façon. Il reste encore un quart d'heure à jouer. On va pas rejouer un quart d'heure. Et puis, des deux côtés, comme l'a très bien rappelé Pierre, on n'allait pas favoriser l'un ou l'autre.
Puis, il a raison qu'il y avait des pressions sur l'arbitre aussi. On le savait des instances locales.
Je pense que la vraie sanction qui aurait vraiment pénalisé Nice, parce que la responsabilité, c'était à Nice d'assurer la sécurité du stade et du match, ils ne l'ont pas fait, ça aurait été les sanctionner de 1, 2, voire 3 points. Mais, pour préserver le suspense du championnat, parce que si on commence déjà à plomber Nice, le dauphin peut-être probable du PSG, on va peut-être un petit peu fausser la compétition. Donc à mon avis, la sanction, elle était là, on leur enlève 1, 2 ou 3 points. Si on veut être sévère, c'est ce que je pourrais penser, on aurait pu leur enlever 3 points directement. Mais une fois de plus, comme il y a des enjeux sportifs, on n'a pas voulu être trop loin. Mais c'est déjà bien
et
qu'on l'aurait...
Et parce que peut-être c'est en début de saison aussi.
Oui, voilà. Bien qu'il y ait eu ce 2 points, 1 point de sursis et 1 point ferme.
Ça reste une commission indépendante. J'ose espérer qu'elle n'a pas pris la décision en imaginant qu'à terme, ça risquerait d'altérer l'équité sportive. Commission est indépendante, elle ne prend pas les ordres auprès de la LFP en disant parce que les droits TV sont...
Non, mais ce qu'elle a écouté tout au long de la soirée, les 22 personnes ont peut-être...
Elle est constituée de juristes. J'imagine qu'ils ont pris une décision pour s'éviter justement des jurisprudences litigieuses et pour éviter. Alors effectivement, on parle du un point moins contre Nice et 2 avec sursis. Parce que doit-on quand même rappeler que Nice, en tout cas les supporters niçois, n'ont pas du tout respecté le match.
Et c'est la responsabilité du club.
Et bien sûr. Oui. Donc c'est normal qu'il y ait eu le point de suspension. Non, mais
quand même, il y a trois ou quatre coupables, on va dire. Il y a les supporters niçois, il y a le club de Nice qui ne gère pas ses supporters, il y a les joueurs de Marseille qui répliquent à la provocation. On sait bien que c'est souvent la réplique qui est sanctionnée et pas la provocation, mais ils sont quand même au courant et ils sont des professionnels et franchement, c'est des gestes qui doivent pas exister. Et puis, il y a les dirigeants marseillais qui s'opposent au règlement et refusent de reprendre le match. Là-dessus, je ne sais pas.
Ça fait 2-2.
Donc là,
moi j'aurais pu rajouter un cinquième, c'est l'arbitre.
Bah l'arbitre, ouais, c'est encore lui, il a appliqué les règlements.
Non, mais
à
il
peu
aurait
près,
pu
mais...
aussi arrêter.
Oui, c'est 75 bouteilles reçues sur Payet. Il aurait
dès
pu.
Dès le début du match, il y avait des bouteilles. Oui, qui
non,
étaient
lancées. Un appel au micro quand même, non?
Voilà. Oui.
Donc là-dedans, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on vient sanctionner avec des points. Parce que en fait, le foot, le sport, a rien à voir là-dedans. Le match est à rejouer. Et après, il faut des sanctions très fortes contre les dirigeants marseillais qui s'opposent aux lois, enfin au règlement, et contre les supporters niçois et le club, fatalement. Et ça veut dire des huis clos ou des matchs délocalisés.
Faut marquer le coup, Jean-Philippe.
Beaucoup plus.
Faut marquer le coup.
Beaucoup plus que ça.
On attend avec impatience, c'est la décision de la FIFA dans l'histoire Brésil-Argentine. Oseront-ils là aussi prendre des sanctions? Eh bien, on verra ça. En tout cas, aujourd'hui, l'entraîneur brésilien Tite a lancé un petit pavé dans la mare en disant « La justice, les lois, le respect et la hiérarchie existent. En football, tout n'est pas permis, il y a des règles. » Évidemment, il n'a pas dit le mot Argentine, mais on a senti qu'il se passait quelque chose.
Ce qui est génial, c'est que c'est quand même dans un pays, des pays les plus laxistes en matière de...
Ah, mais là, c'était clairement pour marquer le coup. Clairement, ça faisait 3 jours ou 4 jours qu'ils étaient, au Brésil. Et il fallait attendre.
Non, mais ils ont beaucoup non, été. Les Brésiliens ont enquêté, essayé de rencontrer les Brésiliens, les Argentins qui avaient promis que théoriquement qu'ils n'aligneraient pas les 4 joueurs. Enfin pareil.
L'Argentine a joué avec le feu.
Hein. Ouais, voilà, exactement, des deux côtés. Allez, on continue. On va vers vous, Pierre, notre invité spécial. Allez.
Le football est devenu un produit. Le produit, c'est le joueur.
On se dirige vers le transfert du siècle avec lui.
Bien sûr qu'on va discuter, on va réfléchir, on va voir s'il y a des belles opportunités.
Les Michel Platini, on n'en trouve pas tous les jours.
Show me the money! Yes, here comes the money!
Here we go! Money talk!
Here comes the money! Money, 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 money.
Dollar. Il pensait convaincre les amoureux du foot en leur promettant de grands matchs.
La navette Super League se crache.
Les dominos s'écroulent un par un.
C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font.
Voilà, ça peut résumer votre livre et l'état de la planète football en ce moment. Justement, Pierre Rondeau, avec ce fin de partie, avec ce SOS que vous lancez, avec aussi cette préface de Nathalie Yanetta, hein, qui d'ailleurs se dit « ce foot, mais quel foot d'ailleurs hein, on a en ce moment ? Est-ce que c'est le foot de notre enfance qui réveillait les passions populaires ou est-ce que c'est maintenant ce football ?» Est-ce que vous êtes optimiste ?
Non, c'est compliqué de le dire, mais parce que là, ce livre est sorti en juin dernier. Je l'ai écrit d'une traite au début de l'affaire Mediapro, finalement, en octobre dernier, septembre-octobre dernier. Au départ, je voulais simplement...
Mediapro, ceux qui devaient retransmettre le championnat de
voilà,
France.
Voilà, la fameuse chaîne espagnole.
Et qui promettait Monts et Merveilles.
Trêve de blabla, trêve de plaisanterie, des images, de l'émotion, de la passion. C'est Téléfoot, c'est ce qui vous attend dans les mois et les années à venir.
Et les années à venir.
Oui, je précise, hein, c'est Mediapro le propriétaire et c'est Téléfoot la chaîne. Voilà. Leur chaîne est diffusée en France jusqu'au mois de février dernier, je crois, si je m'abuse.
Ouais.
En tout cas, gratuitement pour eux, entre octobre et février.
Pour sauver la ligue.
Au départ, mon projet, c'était vraiment de traiter de l'affaire Mediapro. Ça s'est enchaîné avec le Covid, avec la crise du football français, avec la Super Ligue européenne. J'ai écrit d'une traite, pour ça qu'il est court finalement, il fait que 130 pages puisque j'ai rendu le manuscrit en février, j'ai dû rajouter un chapitre en avril pour traiter de la Super Ligue européenne. Et malgré ce livre, enfin malgré, j'ai pas tout changé dans le football, mais après ce livre, on a maintenant le mondial tous les deux ans, on a les affaires de corruption, des affaires de scandale, de dopage et autres. Donc,
et la Super Ligue toujours en
veille. De la Super Ligue qui est toujours en bonne voie. Voix, ou en tout cas petits papiers de certains dirigeants du foot international. Il y a encore une affaire en cours qui doit passer à la Cour de justice de l'Union européenne pour invalider ou non la légalité de la Super Ligue européenne. En tout cas, du monopole de l'UEFA sur l'organisation des compétitions sportives. Donc, c'est encore en cours. Donc, je suis, oui, très pessimiste.
Est-ce que pour vous, ce football-là, en tout cas, hein, celui qu'on voit en train d'être dans une espèce de surenchère permanente, hein, autant des salaires, des transferts et tout ce qu'on voit, est sur le point d'imploser ou alors ça va se détacher comme ça, comme une galaxie qui va tourner toute seule à part.
Oui, ça pourrait être ça. Il pourrait avoir une sorte de segmentation entre un football totalement hors sol qui pourrait s'enclencher avec une Super Ligue européenne, voire une Super Ligue mondiale, avec une FIFA qui pourrait récupérer l'organisation du football international et des clubs avec une Coupe du Monde des clubs, avec les 10 ou 15 plus grands clubs européens qui se constitueraient une...
Qui n'auraient plus d'attache locale, finalement.
Ah oui, totalement hors sol. On pourra... D'ailleurs, dans les papiers, dans les règlements de la Super Ligue européenne, il y avait la possibilité de pouvoir délocaliser des matchs à l'étranger et les
Javier Tebas qui se prive pas de critiquer
et lui-même qui voulait organiser des matchs à Miami effectivement,
on s'en souvient, il voulait organiser des matchs du championnat espagnol,
du championnat de la Liga espagnole à Miami bien sûr,
la première ligue aussi, hein, voulait faire jouer des matchs aux États-Unis,
voilà, oui,
voire même une journée complète.
Comme en Floride, quoi. Ouais. Aux États-Unis.
La Première Ligue, c'est une société privée. Hein.
Bien sûr.
Il faudrait peut-être se réveiller. Hein. Ça freine un peu les quatre fers sur le projet de Super League. L'idée suit toujours son chemin. Et puis, comment dirais-je, je parlais pas de coup d'État, de putsch ou de privatisation, mais les compétitions, elles ont des enjeux commerciaux très 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 gigantesques. Donc on pourrait éventuellement, je le souhaite pas, un jour se passer de la FIFA, de l'UEFA, de la CAF.
Mais ce qui pourrait se passer en plus, c'est qu'on le voit à travers le projet du Mondial tous les deux ans, associé à ce projet de Super Ligue européenne, voire une confrontation entre l'UEFA et la FIFA. On le sait maintenant que la FIFA était partisane de la
Super
Ligue.
Justement, aujourd'hui, et on en discutait juste avant cette émission, il y a dans le journal Times de Londres, Seferin, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, qui s'est exprimé en disant pourquoi pas appeler à un boycott, nous, UEFA, et donc nous, avec mes clubs et mes joueurs, donc. Et peu de temps auparavant, quelques jours, il avait déjà tenu des propos, justement, où il allumait ce projet présenté par Arsène Wenger de Coupe du Monde tous les deux ans.
Nous pensons que le joyau qu'est la Coupe du Monde tient précisément sa valeur de sa rareté. L'organiser tous les deux ans diminuerait sa légitimité et banaliserait la Coupe du Monde elle-même. Les rencontres internationales et celles des clubs occupent pleinement le calendrier qui ne gagnera pas à être densifié. Nos joueurs n'ont pas besoin de passer tous leurs étés à disputer des tournois épuisants au lieu de se consacrer au repos et à la récupération.
Alexander Seferin, évidemment président de l'UEFA, il fonce comme ça et il dit ça. Mais quand il parle de rareté, est-ce que justement la multiplication d'une telle compétition, parce qu'on dit la Coupe du Monde tire son argent essentiellement, pas seulement des billetteries, hein, même on a vu que l'euro ça l'a pas empêché de se tenir, mais des droits télé bien sûr, qui a l'air d'être le grand nerf de la guerre. Est-ce que ça diminuera pas du coup la manne des chaînes télé finalement, et que le gâteau, de toute façon, on le divise en 8 au lieu de le diviser en 4.
C'est intéressant parce que ce matin, j'ai eu une longue conversation avec un économiste du sport sur ce sujet justement de mondial, enfin sur beaucoup d'autres sujets, mais effectivement sur ce sujet, on a cité la théorie des rendements décroissants, de l'utilité marginale décroissante, de quelque chose qui se répète, plus ça va se répéter, plus on va se lasser de cette chose. Et on a le sentiment que les dirigeants au sein de la FIFA, qu'Arsène Wenger, n'ont pas intégré cette idée. S'imaginent bêtement que parce qu'une Coupe du Monde rapporterait entre 2 et 4 milliards de dollars par édition, si on multiplie l'édition, on multiplie les gains. Faut pas se voiler la face, je pense. Alors après, c'est mon opinion, peut-être qu'on pourra en débattre, mais je pense que si on fait un mondial tous les deux ans et de matchs internationaux qui se répéteraient comme ça, avec des finales et demi-finales de Coupe du Monde assez régulières, on se lasserait. Après, là où je pense malheureusement que ça pourrait se faire et que j'ai le sentiment que c'est un coup d'épée dans l'eau, et je le vois à travers la Coupe du Monde au Qatar par exemple, c'est que malgré tout, nous fans de foot, on aura beau critiquer, on continue à regarder. Je pense que malheureusement, la Coupe du Monde au Qatar par exemple, tout le monde la critique, mais on la regardera.
Non, parce que c'est aussi notre travail. Mais
alors je parle des fans. Les fans, on l'a vu pour la Super Ligue Européenne, ils ont boycotté. Alors c'est pas eux qui sont à l'origine de l'arrêt, de la pause de la Super Ligue Européenne, mais ils l'ont critiqué. Si elle avait eu lieu, les supporters de Manchester l'auraient regardé. Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar, on la critique, mais on la regardera. Demain, les Coupes du Monde en 2026 et peut-être 2028, malheureusement, j'ai le sentiment que les gens la regarderont.
Il faut juste faire un petit point d'histoire. C'est-à-dire pourquoi la Coupe du Monde a lieu tous les 4 ans et les autres compétitions, enfin, à part la CAF, la CAN qui, elle, a eu lieu tous les 2 ans, pour des raisons de développement, d'ailleurs.
D'organisation du football bien différente sur le continent.
Voilà. Mais pourquoi la Coupe du Monde tous les 4 ans? C'est parce que, en fait, les JO sont créés tous les 4 ans.
Déjà, les a dissociés. Hein.
Et le foot.
Tous les 2 ans, les JO d'hiver, et tous les 2 ans,
le tournoi de foot en 24
en alternance.
Et 28 prend tellement d'importance pendant les JO qu'il faut extraire le foot des JO. Parce que sans ça, ça va tout bouffer, il n'y aura plus d'autres sports. Donc on crée une Coupe du Monde. Enfin,
1930.
La France, on crée la Coupe du Monde en Uruguay, puisque c'est l'Uruguay qui est tenant de... Donc, et ce rythme des 4 ans, en fait, il vient de là. C'est parce que c'est le rythme des JO. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait rester toujours?
Donc vous êtes en faveur du fait qu'il change ?
Je pense qu'il ne faut pas confondre le patrimoine, la périodicité des tournois et tout ça, et l'ultralibéralisme qui précède au sport
aujourd'hui.
Depuis,
on a rempli des cases, c'est-à-dire depuis 1930 et les JO et la Coupe du Monde, sont arrivées les compétitions.
L'Euro, la Coupe Américaine.
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre un football européen ou mondial qui se dérégule en permanence et forcément c'est les plus gros qui servent et ils vont rassembler une toute petite élite en excluant le plus grand nombre, voilà, hein, parce que la Ligue des Champions aujourd'hui c'est peut-être pas la Super League, mais on sait très bien qu'il y a peut-être que 8 clubs qui peuvent la gagner et qu'on n'est plus du tout
on parlait des éliminatoires, elle va être de plus en plus dense en plus.
Donc elle augmente. En 2024, elle passe à 38,
ce qu'on disait pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, les phases de groupe de la Ligue des Champions, elle commence à perdre de plus en plus d'intérêt aussi.
Absolument.
La phase de poule,
il faut pas se tromper.
Je vais aller dans le sens de Jean-Philippe, il y a une compétition qui s'appelle la NBA. Son rythme, il est annuel.
En basket aux États-Unis.
En basket, tout le monde regarde. C'est l'équivalent d'un championnat du monde de basket.
Mais
c'est
pas. Il préserve l'incertitude. Oui, il parle avec la draft, avec tout.
Mais moi, je parle pas de Super League. Moi, je parle de la périodicité bisannuelle de la Coupe du Monde tous les deux ans. Moi, je parle de la NBA, c'est tous les ans. Les gens ne se lassent pas. Il y a de plus en plus de gens qui regardent. Attends, je finis. Ça, c'est
Vous parlez de ça, mais en Europe, on a les championnats qui passionnent.
Je dis qu'il peut y avoir une grande compétition qui dure sur toute une saison et qui va être suivie même quand elle a lieu une fois tous les 1 an.
Ce qu'on reprocherait à ce genre de projet et ce qui faisait peur dans la Super League, c'est que ça allait finalement éliminer les autres compétitions.
Le projet d'Arsène Wenger, c'est un projet qui est assez charpenté. Il explique bien. Il y aurait des fenêtres, 1 mois, voire 2 mois d'éliminatoire. Mmh. Et ensuite, pour le plus grand bonheur des clubs, les joueurs seraient à la disposition des clubs. Là, je me fais l'avocat du diable. Et la deuxième chose, il faut arrêter avec la culture de la rareté, la beauté de la rareté. Je rappelle quand même qu'avec le temps qui passe, la mémoire foot, elle devient de plus en plus
courte. Mais c'est ça qui est triste, en fait.
Ah ouais, mais c'est une réalité.
On
parle comme des anciens combattants, Pierre.
Oui, mais malheureusement, moi, j'ai encore envie de croire à un football romantique et j'ai pas envie qu'on me dise, oui, mais la mémoire collective du foot est au point mort, est en perdition. Parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on a Internet, parce qu'on a la grande consommation de masse.
C'est la réalité.
Oui, mais on peut aussi espérer à ce qu'on ait des événements rares, légendaires, qui font justement la saveur du football. Avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est banaliser un exceptionnel. Moi, j'ai encore des...
Banaliser quoi? Le football, il appartient plus à l'Europe. Il appartient au monde entier.
Mais je dis pas qu'il appartient à l'Europe.
Non, mais la Coupe du Monde, elle appartient...
On est très eurocentré. Moi, je suis contre. J'ai l'impression de me faire l'avocat du diable. On est très, très, très eurocentré sur, comment ça s'appelle, sur notre football, notre compétition, notre Ligue des Champions,
on est européen, c'est un peu logique.
Ouais, mais c'est normal. Avec nos 12, 13, 14 participants européens à la Coupe du Monde, va demander aux Asiatiques, aux Sud-Américains, à l'Asie et les nations du CONCACAF si elles, ça les dérange de faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Moi, je crois pas, moi.
Oui, mais non, mais d'accord, mais dans ces cas-là.
Non, mais il faut leur demander aussi. Quand Arsène Wenger dit qu'il y a 166 pays qui adhèrent.
Les Sud-Américains apparemment seraient avec les Européens.
Selon le Times de cet après-midi.
Selon
Seferin. Seferin qui est cité par le Times.
Une dizaine de pays seulement.
Les pays sud-américains et européens seraient prêts à boycotter et à s'opposer au mondial. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de 160 pays. Effectivement, l'Asie et l'Afrique seraient partisanes parce que justement, ça permettrait d'augmenter les confrontations internationales et d'augmenter l'expérience, la visibilité, la performance.
L'Amérique du Sud et l'Europe vont défendre leur précaré.
Oui, mais
pardon.
Il y a des gens à qui on demande jamais leur avis, c'est les joueurs.
Alors moi, ce que je trouve étonnant,
il y a Ronaldo qui ce matin, il était en conférence de presse à Dubaï.
Lequel?
Ronaldo, le Brésilien. Mm-hmm. Ronaldo, le Brésilien.
Le vrai, donc.
Qui fait partie d'une espèce de team FIFA Legends. Il y a plusieurs joueurs comme ça à la retraite qui sont assez bizarrement tous partisans du mondial tous les 2 ans, et qui a, lors de la conférence de presse, a dit que il avait posé la question à beaucoup de joueurs en activité et tous étaient ok pour le mondial de tous les 2 ans, et même si on posait la question à Messi et à Cristiano Ronaldo, ils seraient partisans du mondial tous les 2 ans, selon Ronaldo.
Eh bien, c'est donc un sujet qui n'est absolument pas clos et nous y reviendrons. J'espère que vous reviendrez bien dans notre émission. Vous étiez invité spécial, vous serez toujours spécial.
Voilà, exceptionnel.
Votre, exceptionnel. Je rappelle votre livre, Pierre Rondeau, fin de partie pour le foot. C'est Fondation Jean Jaurès aux éditions de l'Aube. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir animée avec autant de cœur. Et nous nous retrouverons demain pour le Café des Sports. Merci. 7 milliards de...